VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roch Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le président américain Donald Trump a condamné hier la mise en accusation votée contre lui par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, mais il a assuré à ses partisans que les républicains au Sénat empêcheraient sa destitution lors du procès qui devrait se tenir début 2020. L'issue attendue du vote mercredi à la Chambre des représentants inscrit Donald Trump dans la catégorie des rares présidents des États-Unis à devoir faire face à un procès en destitution au Sénat après Andrew Johnson et Bill Clinton, alors que Richard Nixon avait démissionné avant le vote en séance plénière à la Chambre basse du Parlement. Le premier forum mondial sur les réfugiés a fermé ses portes hier à Genève. L'ONU a salué un nouveau virage pour l'aide aux réfugiés. Yacouba Ouédraogo.
8 milliards de dollars, dont 4,7 milliards par la Banque mondiale, ont été promis. Selon le HCR, le secteur privé a émis des annonces qui doivent permettre de donner accès aux réfugiés à au moins 15 000 emplois. Les gouvernements se sont engagés dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure et de l'éducation. Ils disent devoir changer leur législation pour faciliter l'accès à l'école pour les enfants. Le HCR s'est félicité des annonces en matière de réinstallation, un programme consistant à installer dans des pays tiers des personnes déjà déplacées. La Commission européenne a prévu de réinstaller plus de 30 000 réfugiés en 2020. Le HCR estime à 1,44 million le nombre de réfugiés en besoin de réinstallation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à assumer collectivement le poids des 26 millions de réfugiés qui ont quitté leur pays, le plus souvent à cause des guerres et d'autres violences.
L'ex-président pakistanais Pervez Musharraf, en exil à Dubaï, a qualifié mercredi soir de vendetta personnelle sa condamnation à mort par contumace pour trahison mardi, déplorant un usage regrettable de la loi pour le viser. L'usage de la loi en visant une seule personne et en choisissant les incidents qui les arrangent montre bien ce que ces personnes désirent, a déclaré l'ancien général, faisant référence au président de la Cour suprême qui aurait, selon lui, admis avoir accéléré la procédure. Le premier ministre libanais Saad Hariri, décrié comme l'ensemble de la classe politique libanaise par le mouvement de contestation, a annoncé mercredi ne pas souhaiter être candidat à sa succession, et ce à la veille de consultations parlementaires destinées à permettre la formation d'un nouveau gouvernement. Âgé de 49 ans, M. Hariri a démissionné le 29 octobre dans la ligne de mire des manifestants qui battent le pavé à travers le pays pour exiger un renouvellement complet de la classe dirigeante au Liban, accusée de corruption et d'incompétence.
Nos infos sur voaafrique.com.
Le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune est officiellement entré en fonction ce jeudi en prêtant serment lors d'une cérémonie officielle à Alger, la capitale. Élu au premier tour le 12 décembre, M. Tebboune succède à Abdelaziz Bouteflika, dont il fut le premier ministre et qui a été contraint à la démission en avril par un mouvement populaire inédit de contestation du régime qui agite l'Algérie depuis 10 mois. En Côte d'Ivoire, l'opposition politique a annoncé hier qu'elle maintenait son meeting prévu samedi lors de la visite du président français Emmanuel Macron, mais dans un lieu différent pour contourner la tentative des autorités de l'empêcher. Eki Abadou.
Maurice Kakou Gikawe, numéro 2 du PDCI, annonçait hier que le meeting se tiendra au stade Séni Fofana de Port-Boué, une commune populaire d'Abidjan. Ce meeting devait se tenir à Yopougon, une autre grande commune populaire, mais dont la mairie est tenue par le parti au pouvoir du président Alassane Ouattara. Vendredi, le maire de Yopougon a pris un arrêté interdisant toute manifestation publique jusqu'au 5 janvier 2020, ce qui revenait à interdire de facto le meeting de l'opposition. Pour Port-Boué, nous avons l'autorisation de la mairie qui est tenue par le PDCI, a précisé M. Gikawe. La coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix lancée par le PDCI et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche du FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo, organise cette rencontre aux allures de campagne pour la présidentielle d'octobre 2020. Emmanuel Macron se rend en visite officielle en Côte d'Ivoire à partir de demain vendredi jusqu'à dimanche.
Et Emmanuel Macron va fêter vendredi Noël avec des soldats français déployés à l'étranger. Cette année en Côte d'Ivoire, un lien un pays avec lequel Paris veut resserrer les liens dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État français va partager le dîner de Noël avec un millier de militaires sur la base de Port-Boué, près de l'aéroport d'Abidjan, où il doit atterrir vendredi en fin d'après-midi. Emmanuel Macron rend visite aux forces françaises en Côte d'Ivoire, les FFC, le deuxième contingent de troupes prépositionnées en Afrique après celui de Djibouti. La visite de M. Macron intervient dans un contexte politique tendu en Côte d'Ivoire à 10 mois de la prochaine présidentielle et près de 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3 000 morts. Les députés camerounais ont adopté mercredi un projet de loi sur la décentralisation accordant un statut spécial aux deux régions anglophones du Cameroun où se déroule depuis plus de 2 ans un conflit meurtrier opposant l'armée à des séparatistes. Ces régions seront désormais autorisées si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la justice, selon la Radio Nationale Camerounaise. Ce statut spécial est la principale recommandation sur laquelle s'étaient entendus les participants au Grand Dialogue National convoqué par le président Paul Biya début octobre pour mettre fin à cette crise qui a fait plus de 3 000 morts. Au moins 14 personnes ont été tuées mardi dans un village de pêcheurs dans l'ouest du Tchad par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram qui multiplie également ses attaques meurtrières dans les autres pays riverains du lac Tchad, Niger, Nigeria et Cameroun. Le village de Kega, la cible des terroristes, est situé à une 60aine de kilomètres de la frontière du Nigeria, pays berceau de Boko Haram. Nous savons que ce sont toujours les éléments de Boko Haram qui écument cette zone. Ils sont donc à l'origine de cette attaque, a expliqué à l'agence France Presse le préfet de la zone, Dimouya Swapebe. La Zambie subit les pires coupures d'électricité de son histoire. Ce sont les effets de la sécheresse qui ralentissent sérieusement l'activité économique et affectent la vie quotidienne de ses habitants. John Lydon pour les précisions.
Dans les quartiers de Lusaka, la capitale, ces délestages peuvent se prolonger jusqu'à 19 heures par jour. Ces coupures d'électricité alimentent la colère de la population. Ces deux dernières semaines, des manifestants ont caillassé des installations de la compagnie de distribution. Récurrente depuis plusieurs saisons dans toute l'Afrique australe, la sécheresse a fait plonger les réserves d'eau du barrage hydroélectrique des Kariba dans le sud du pays, sa principale source d'énergie. Selon le ministre zambien de l'énergie Mathieu Nkuwa, ces turbines ne tournent plus qu'à 10% de leur capacité. Il n'y a plus d'électricité dans la région, a-t-il déploré. Il n'y a même plus en Afrique du Sud d'où nous importons, a-t-il ajouté. Eskom, le géant public sud-africain de l'électricité qui fournit au pays 95% de son courant, a été contraint la semaine dernière à des délestages massifs à cause des intempéries.
Merci John. Les Soudanais ont donné aujourd'hui le coup d'envoi à une journée de festivités à travers le pays pour le premier anniversaire du mouvement de contestation ayant mené à la chute du régime d'Omar el-Béchi au terme d'un règne autoritaire de 30 ans pour rendre hommage aux pionniers de la révolution d'Atbara à 350 km de la capitale. Un train rempli de centaines de personnes est parti de Bari, près de Khartoum, en direction de la ville ouvrière du Nord-Est, qui avait été le théâtre en décembre 2018 des premiers rassemblements après l'annonce soudaine du triplement du prix du pain. Et puis, un an après le début de la contestation, le pays fait face à d'importants défis économiques. Le Soudan subit encore les effets de l'embargo économique américain, car Washington le maintient sur la liste noire des États soutenant le terrorisme, ce qui de facto l'exclut du système financier international et barre la route aux investisseurs étrangers. Et pour terminer, rappel, Emmanuel Macron va fêter demain vendredi avec les soldats français déployés à l'étranger cette année en Côte d'Ivoire, un pays avec lequel Paris veut resserrer les liens dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État français va partager un dîner de Noël avec un millier de militaires sur la base d'Abidjan, près de l'aéroport de Port-Boué, où il doit atterrir vendredi en fin d'après-midi. Emmanuel Macron rend visite donc aux forces françaises en Côte d'Ivoire, le deuxième contingent de troupes prépositionnées en Afrique après celui de Djibouti. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal.
Soyez
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.